CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Aux portes de l'Afrique. Quand on remplit sa bouche de farine sèche, c'est que l'on a assez de salive pour la mâcher.
Ça veut dire
que quand on dit quelque chose,
oui,
la parole seule ne suffit pas, il faut lier la parole à l'acte.
Ah ouais, d'accord.
Eh ben oui. Oui, c'est vrai.
Redis-le en
Bambara. Non, je vais le dire en Dogon là, parce qu'il y a tellement de langues au Mali.
Et oui, Dogon, Bambara aussi.
Ouah. Kida kunduyo yulo jo wa yese en Bambara ko. Moi je dis la première partie, toi tu finis la deuxième partie.
D'accord.
Parce qu'on parle tous les deux Bambara.
Ok.
Donc ko ni da famugu jalana
faka soro nyingi ji de bida.
Vous venez d'entendre Paul Sidibé et Amadou Kansai. Dominique Janin est là également, salut.
Bonjour. Je reste avec mon accent.
Ouais, ah. Tu ne dis rien en Bambara ni en langue d'Ogon.
Ika Kenewa, c'est tout. Mais maintenant, je pense que tous les auditeurs doivent connaître Ika Kenewa.
Ika Kenewa, voilà. À part moi, je me rappelle plus ce que ça veut dire.
Comment ça va?
Ah oui, ça va bien. Ça va bien, c'est la rentrée de Portes de l'Afrique avec au programme aujourd'hui, Dominique.
Ben moi, j'ai envie de parler des pygmées. Des pygmées du Congo qui réclament l'application d'une loi qui les protège. Et c'est une loi qui a été qui porte sur la promotion et la protection des droits des peuples autochtones en République du Congo. Et cette loi, elle avait été promulguée en février 2011, donc ça fait pas très longtemps, hein.
On en parlera tout à l'heure.
Hein, j'ai cru qu'elle était
en train de partir. On reprend les bonnes habitudes radiophoniques.
Un an de Aux Portes de l'Afrique, vais-je pouvoir parler cette année?
Amadou Kansai nous parlera d'un projet social et économique qu'il mène avec son association à Bamako.
Absolument. Hein,
c'est ça? Ouais.
Donc l'histoire, c'est que j'ai créé avec d'autres amis une bibliothèque au Mali à Bamako, précisément ça fait 13 ans, et avec peu de moyens, des moyens propres, j'ai essayé de soutenir la bibliothèque, mais j'ai vu que ça suffisait pas, et donc j'ai eu des amis avec qui on a créé une association ici en France qui s'appelle Angata Komaba. Angata, ça veut dire partons mais pour longtemps, loin. Et on a créé cette association pour soutenir la bibliothèque au Mali. Et en même temps, nous avons voulu créer un axe économique là-bas au Mali autour du karité. Hein, c'est ce table qu'on appelle
beurre de karité.
Beurre de karité. Et donc, nous allons acheter du beurre de karité au Mali, produit par des femmes, des villageois. Et puis, on essaie de le commercialiser ici en France pour que la bibliothèque aussi puisse bénéficier de cet échange, je dirais, social et économique.
Paul Sidibé, tu nous emmèneras en Afrique tout à l'heure par un son?
Oui, par un son déjà.
Où c'est qu'on partira?
On va partir un peu partout en Afrique, parce qu'en fait, j'ai pris un son d'un instrument nomade qui se joue un peu partout. Partout, il y a des nomades.
On entendra ça donc tout à l'heure. Et bien sûr, on commence en musique.
Ouais, musique, j'ai amené Ali Fariga Touré, parce qu'en fait, à l'entrée, il faut habituer aux auditeurs, il faut pas le balancer un truc violent, quoi. C'est pour ça que j'ai amené ça. On va partir.
Une petite douceur.
Voilà.
Ali Fariga Touré. Ouais. Et là, normalement, tu fais le jingle.
Aux portes de l'Afrique.
Jingle à l'africaine, on fait tout sur place.
On peut parler là.
Thank you.
Et voilà. C'est Ali Farga Touré qui va nous faire démarrer la deuxième année de émission aux portes de l'Afrique. Oh là là, c'est pas facile.
T'es ému.
Plus, hein. Ah oui. Ouais, je suis un peu touché là. Et par la musique. Donc du coup, une dédicace à travers des Ali Farga Touré pour Fadi Koné et Jean-Jacques qui nous écoutent, et la copine, la maman de Galim.
Oui.
Et Fred, enfin ouais. La maman de Fred.
Fidèle auditrice.
Oui, oui. Voilà. Et bien, on va continuer. Hein. On va continuer hein, parce que, comme j'ai dit, il faut pas commencer violemment. Parce que les auditeurs, ils ne méritaient pas ça. Aux portes de l'Afrique.
Alors, les pygmées réclament plus de droits, Dominique Jeannin.
Ils réclament plus de droits parce qu'ils sont menacés d'extinction selon l'ONU. Et ils se plaignent beaucoup d'être maltraités, d'être traités en esclaves par une majorité bantoue du Congo.
Ah voilà, j'allais demander.
C'est au Congo,
où
voilà.
Où sont les pygmées Donc au Congo.
Donc.
Au Congo et pas seulement au Congo.
Voilà, mais c'est eux là, c'est ceux du Congo qui réclament, parce que cet été, bon, il y a eu des choses, je vais vous dire, hein, de promulguer le 5 août par rapport à une aide qu'il faut absolument envoyer. C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de la Somalie, de la Corne de l'Afrique. Le Congo est un pays qui est quand même très menacé avec beaucoup de violences politiques, violences d'extinction. Je suis émue moi aussi, parce que c'est difficile, parce qu'il n'y a plus de forêt, parce qu'il n'y a plus rien. Hein, au profit de plein de gens. Donc ils réclament l'application, ces populations de pygmées réclament l'application d'une loi qui a été élaborée en 2004, mais promulguée par le président de la République en 2011 et qui est censée les protéger, mais qui les protège pas parce que ils sont dans cette demande-là. Et Valentin Mavungu, qui est directeur général des droits de l'homme et des libertés fondamentales au niveau du ministère de la Justice du Congo, il constate que dans tout le nord du Congo, ils sont considérés comme des esclaves. Vraiment. Alors que quand on arrive au sud, on constate exactement la même chose. Donc du nord au sud, ce peuple est opprimé, comme tous les peuples minoritaires, hein, quand même, dans chaque pays. Mais il est quand même optimiste. Il rajoute que cette loi va réparer les injustices, les inégalités dont sont victimes ces autochtones, un peuple à part entière du Congo. Et cet été, le 5 août, il y a un représentant des Nations Unies, David Lawson, qui a fait une conférence débat sur cette mise en place de cette loi qui doit vraiment être posée au Congo. Ça va être compliqué, hein, vu ce qui se passe là-bas. Et il dit que cette communauté est en danger. Et par ailleurs, l'UNICEF signale que seulement 65% des adolescents pygmées ne sont pas scolarisés, contre 39 à l'échelle nationale, ce qui est énorme. Tout à l'heure, je vous parlais des forêts. C'est un peuple qui vit dans les forêts par excellence.
C'est un peuple nomade ou c'est un peuple sédentaire?
Non, ils sont très sédentaires puisqu'ils restent dans ces forêts. Mmh. Ces forêts, ils sont autochtones, donc ils vivent la production de la forêt, ils cultivent la terre dans les forêts. Ama.
Oui, ce que tu disais, c'est ça en fait. Bon, moi, ça c'est une impression même peut-être personnelle, mais ce qu'il faut comprendre, là, dans la forêt. Enfin, ces gens, ils vivent de la chasse et de la forêt, de la nature, tout simplement.
Oui.
Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la nature est dégradée par les peuples du Congo qui sont pas pygmées, parce que il y a beaucoup de mines là-bas. Mmh. Hein, il y a beaucoup de richesses dans le sous-sol. Ça, c'est un problème. Donc, ils n'arrivent pas à cultiver
leur champ. Donc, on détruit leur habitat, en fait.
Leur habitat, oui. C'est des chasseurs, on détruit ça. Donc, du coup, ils se défendent par rapport à ça. Ils veulent qu'on les laisse leur nature, la biodiversité. Ils sont pour ça. Et deuxièmement, c'est que 65% de pygmées non scolarisés contre 39
à l'échelle nationale.
Et ça, c'est le problème dans les villes. C'est les pygmées quand il y en a certains qui sortent de chez eux, de la forêt, pour venir à Kinshasa ou en ville. Et donc, du coup, ils sont obligés de faire des travaux domestiques parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Et du coup, ils sont traités comme...
comme des esclaves.
Voilà, c'est ce qu'on appelle les bonnes chez nous.
Voilà. C'est comme tu dis, Emma, je veux dire, ils ont perdu leur mode de vie, hein, qui est essentiel à l'existence d'une population. Et ils n'ont reçu aucune compensation, bien sûr. Ben, c'est ce qu'on a retrouvé en Amérique du Nord avec les Indiens. C'est ce qu'on retrouve en Australie aussi, dans tous ces peuples minoritaires. Et il y a un site qui est très bien, qui s'appelle Survival, et qui est spécialisé sur les peuples indigènes. Voilà. Donc, ayons un regard, une écoute, une lecture attentive sur ces pygmées du Congo.
Aux portes de l'Afrique. On est là, hein?
Alors, ben, je reviens vers toi, Amadou. À propos de ce projet autour du beurre de karité qui doit permettre en fait de financer au bout du compte une bibliothèque ou de trouver son autofinancement à une bibliothèque qui est à Bamako, qui est un projet que tu as lancé avec ton association il y a maintenant de nombreuses années.
Nombreuses années. Et là, nous avons pris une vitesse de croisière maintenant parce que je reviens du Mali là il y a une semaine. J'étais à Bamako puis à Sikasso, là où on produit carrément le karité. Il y a une chose, c'est pas pour rien quand on a choisi le karité ou le beurre de karité. Je vais pas épiloguer sur les bienfaits du karité ou du beurre, que tout le monde le sait là maintenant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Mali, c'est le deuxième pays producteur de karité au monde. Hein? Et c'est pour ça qu'on dit, les Russes, ils ont bien dit, Guidé Contia et sa carité, Contia et sa Japadna et Africa.
Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Les Russes
ils
ont dit.
Ils ont dit ça, les Russes.
Les Russes ont dit ça.
Qu'est-ce qu'ils ont
Guidé Contia et sa carité, Contia et sa Japadna et Africa. C'est-à-dire que là où s'arrête le karité, s'arrête l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est un arbre qui ne pousse qu'en Afrique de l'Ouest.
Bon, c'est qu'est-ce pas que tout... c'est une racine, c'est une herbe,
c'est quoi? Ah non, c'est un grand arbre, c'est énorme. Et voilà.
On peut monter dessus tout ça, faire l'émission là.
Et c'est un fruit, ça fait un fruit ou ben ça fait quoi? D'où vient le beurre de karité en fait?
Ça vient d'un noyau. Bon, on mange le fruit déjà.
D'accord.
Et le karité, le fruit, il tombe. C'est qu'on ne monte pas là pour le couper, mais il tombe. Et donc, on le ramasse, on mange le fruit, et après, il y a le noyau. Avec le noyau, on fait le beurre de karité. Le noyau sont broyés, il y a le battage avec la main. Mais aujourd'hui, on a introduit des machines pour plus d'hygiène, pour plus de rapidité et de raffinage du beurre de karité. Voilà. Donc, ça, c'était sur le karité. Mais nous sommes dit, ça, c'est une ressource qui est au Mali. Hein, au niveau même politique, j'ai rencontré beaucoup de politiques à ce sujet-là où la filière est très mal organisée. Nous sommes entrés dedans pour que ceux qui travaillent dedans puissent en vivre. Et donc, c'est une ressource typiquement du Mali. Et ça nous permet aussi, avec cette ressource, de financer et l'alphabétisation dans les villages, aider les femmes qui y travaillent, mais aussi la bibliothèque qu'on a mis en place à Mayambougou, à Bamako pour les enfants. Voilà, donc il y a une association ici en France qui s'appelle Angata Kumaba, comme je l'ai dit au début. Cette association aussi, nous faisons des activités culturelles, beaucoup de choses ici. La dernière fois, c'était dans Lot-et-Garonne où on a fait
magnifique.
Voilà, une soirée magnifique où j'avais joué avec Paul, un autre ami d'Airu Togo que vous avez connu aussi. Récolté un peu de fonds, on a eu 950 euros. Qui est une somme assez conséquente au Mali. Donc, ça nous a permis d'attribuer des ordinateurs et surtout un cinéma de quartier aux jeunes de Mayambougou. Nous l'avons fait là.
Donc, un écran plein, un bel écran plein, géant.
Et donc, les jeunes, ils ont eu ça, c'est un cinéma de quartier. Et donc, du coup, pour nous, ça, c'est dans l'éducation populaire. Hein. Ils pourront choisir des films. Ce ne serait pas du Shaolin ou... voilà. bon, en tout cas... Voilà, ils pourront choisir leur film, regarder et même il y a une caméra où ils peuvent faire des petits reportages aussi, on bidouille un peu pour voilà. Donc nous avons fait cela. Et donc karité axe économique pour pouvoir aider la bibliothèque et les femmes
Alors, juste un mot sur le beurre de karité. Ça rentre en fait dans la fabrication des crèmes pour la peau.
Alors c'est pur, c'est très pur.
C'est pour
c'est hydrater adoucir, la peau, mais soigner la peau. Et je voulais vous dire, parce que je vais profiter de l'info de ce que nous dit Amadou, c'est qu'au mois de novembre, nous allons développer Traversée africaine. On en reparlera sur l'antenne dans le Tarn-et-Garonne. Et il y a un salon de coiffure que tu avais invité d'ailleurs, Rémi, il me semble, qui se trouve
à deux pas des studios,
Gustave Garrison, et qui s'appelle Artistique R. Et nous allons faire toute une animation autour du beurre de karité avec Ahmad, tu seras là pour en parler à ce moment-là. On vous dira la date, mais je crois que mesdames et messieurs et les petits enfants et les adolescents qui ont plein de petits boutons là partout, le beurre de karité est génial pour soigner aussi. Hein, pour soigner eczéma, cicatriser. Moi, j'ai vu ça, c'est excellent. Donc, vous viendrez en démonstration dans ce salon.
D'accord.
Qui est tenu par une jeune femme ivoirienne, charmante et pleine d'idées.
Que vous retrouvez d'ailleurs sur notre site cfmradio.fr. Vous allez sur cfmradio.fr, vous cherchez, vous tapez Artistique Air dans le petit champ de recherche et vous tomberez sur l'interview qu'on avait fait à l'époque de l'ouverture de son salon de coiffure. Jingle.
Aux portes de l'Afrique.
Il est l'heure, Paul, de nous faire voyager en Afrique.
Ouais. Eh bien, je vous fais voyager en Afrique. Voilà, c'est un instrument qui a une seule corde dessus.
Une seule corde.
Ouais, une seule corde qui s'appelle Djulukleni, au Mali. C'est le nomade, il s'appelle Ngrina. Mais en fait, du coup, ça se joue le nomade qui joue quand en poursuivant le troupeau de vaches ou de moutons. C'est leur instrument vraiment accompagnateur, quoi.
Mais la corde, elle est, donc, il y a quand même un manche avec une calebasse ou quelque chose.
Corde,
ou...
il est monté comme un violon africain. Il a le même, à peu près le même fabrication.
C'est comment un violon africain, calebasse,
une caisse, c'est une petite calebasse.
D'accord.
Elle est couverte avec la peau de chèvre et une manche qui fait à peu près 50 cm. Et bien, une seule corde montée
dans. Ce serait comme un goni, mais avec une seule corde, en fait. Un tout petit goni.
Mais en fait, c'est un goni. Hein, non, c'est on appelle Djulukleni.
Djulukleni.
Non, Djulukleni, c'est un grina. On appelle un grina ou Djulukleni. Djulukleni, ça veut dire une seule corde. Donc, du coup, c'est les nomades qui le jouent. Sérieusement, c'est-à-dire, ils sont vraiment à fond. Dans leur monde, et puis ils poursuivent les troupeaux et tout. Et voilà. Qu'est-ce qu'il a entraîné?
Je ne sais pas ce que nous dit Dominique. Dis-le dans le micro, Dominique.
Mais
non, ça restera entre nous.
Voilà.
Et tu as enregistré ça où?
C'est au fin fond des brousses là-bas, enfin, j'ai oublié même le village. Là.
Il n'a pas dit quelque chose, on ne va pas faire de secret ici. Là, une fois tu m'as dit, quand on était sur une route de Bretagne, quand on partait jouer là-bas, tu m'avais dit que tu jouais cet instrument-là avant.
Oui, c'était mon
tu l'as abandonné
oui.
Et tu m'as donné une raison. Tu m'as dit, je l'ai abandonné parce qu'il y avait telle chose. Et moi, j'ai pas oublié ça. Donc, pourquoi tu avais abandonné le...
Eh ben, si tu veux, moi, je peux le dire. Sinon, si tu te rappelles, tu peux le raconter aussi. Parce qu'en fait, cet instrument-là, il est mystique. Très, très fort. Parce qu'on peut pas le jouer de rester sur place. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on le voit pas. Il y a beaucoup de musiciens en France ici. Et on le voit pas. C'est pour ça que ça fait partie des... C'est un instrument africain. Qui n'appartient pas forcément que le Mali. Mais en fait, cet instrument-là, c'était mon premier instrument, vraiment.
parce que quand j'étais petit, j'ai raconté millions de fois que j'ai poursuivi le troupeau des vaches de mon père. J'ai joué ça, mais à un moment donné, ma mère, elle m'avait interdit de les jouer parce que en fait, quand j'ai joué tellement, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à voyager parce que j'avais le relais de mon petit frère qui suivait les troupeaux des vaches. Je m'occupais autre chose auprès de mon père et je pouvais pas rester sur place. Ça, c'est sacré. T'as bien fait. Je voulais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais c'est important, peut-être, pour les auditeurs de savoir. Et toujours...
J'ai pas compris le truc. C'est-à-dire que si tu joues de cet instrument, c'est parce
ça
que...
En fait, il y a une espèce de sonorité personnelle que celui qui joue, qui a une communication, on va dire une communion avec cet instrument-là qui est très fort... Mm-hmm. Qui est inexplicable, comme on dit, qui te dit, vas-y, restez pas. Mais ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai raconté à Amadou.
Donc après, tu pars. Quoi.
Tu pars.
Moi, ce que j'ai compris, c'est tellement mystique et philosophique. C'est que tu es dans l'isolement, en fait, tu t'isoles. Quoi.
Ouais.
Tu es obligé de voyager, de partir
loin. Tu pars dans une sorte de transe, parce que c'est ça.
Et tu quittes les humains en plus, tu pars, tu quittes ton pays, ton village, tu pars.
Refais-nous écouter ça.
Tu redonnes le nom?
Djurukeleni.
Oui, parce qu'il faut s'imaginer avec cet instrument-là, seul, perdu quelque part dans la brousse, avec juste ces animaux, les animaux de son troupeau autour de soi, et on est seul avec ceci.
Oui,
et la corde, elle est seule aussi.
Et la corde est seule. Heureusement, nous, on est une équipe.
Aux portes de l'Afrique.
Il y a un proverbe comme ça qui dit une corde, cinq cordes.
Peut-être que vous voulez qu'on ait une
Qu'est-ce que c'est?
Vous voulez qu'on ait une Un seul doigt ne peut jamais ramasser un caillou.
Ah oui.
Peut-être que c'est ça.
Un bouquin?
J'ai le temps.
Enfin, tu traînes pas trop en même temps.
Oui. Bon, alors, il y a quelques années de ça, sur l'aéroport de Mopti, au Mali, j'ai rencontré une femme géniale qui s'appelle Sœur Anne-Marie. Et il se trouve que Sœur Anne-Marie, bon, on a passé une journée ensemble, elle m'explique qu'elle est à la mare de Gossi, Gossi qui se trouve, quand on remonte dans le nord du Mali, je sais pas, à bien 700-800 km de Bamako, non ? À peu près. Et puis, voilà, sort un livre fabuleux qui s'appelle « J'ai choisi d'être médecin chez les Touaregs » et qui joue en couverture « Ma bonne sœur Anne-Marie » qui est un être fabuleux. Quand je l'ai rencontrée, elle avait un boubou mauve et sur la couverture de ce livre, elle a toujours ce boubou mauve. Alors, choisissez ce livre, achetez-le parce que c'est plein d'anecdotes, c'est génial. C'est une femme d'exception, une Bretonne qui vient du Morbihan. Un petit peu de la région de celle dont on avait parlé l'année dernière, Isabelle de Pigardeau, qui est aussi bretonne, une femme d'exception, sont des femmes de caractère. Elle a choisi d'être médecin à un moment donné. Donc dans sa communauté de sœurs, elle raconte comment elle a repris des études à 40-45 ans. La vie n'est pas facile à Gossi, tout le monde peut aller la voir, peut-être pas trop en ce moment, puisque l'État français, bien sûr, nous bloque par rapport à certaines régions du Mali, alors qu'on peut y aller sans souci. Depuis 30 ans, elle prodigue ses soins, elle forme des gens sur place, les gens viennent la voir de partout, avec une liberté de parole, une foi inébranlable. Et moi, je vous dirais, achetez ce livre, il se lit bien, il donne envie de partir et de rester avec elle.
Et ça s'appelle « J'ai choisi d'être médecin chez les Touaregs, sœur Anne-Marie » avec Jacques Duquesne et Annabelle Cayrol.
Voilà.
Édition meilleure.
Alors ce que je voulais dire aussi, c'est qu'elle est soutenue par certaines associations qui sont super. C'est Teranga Africa. Il y a une association de Millau aussi. C'est un espoir pour Gossi Gao et les amis de Gossi. Tout est simple, tout est net, tout est rencontre, tout. Voilà, c'est une femme de caractère, c'est une femme qui crie, c'est une femme qui chante. Moi, je l'adore.
Non,
elle est géniale.
Plus.
Donc, achetons le livre.
Vive sœur
Anne-Marie
des Touaregs,
qui est merveilleuse.
Ben voilà, on arrive au bout de cette édition de rentrée d'aux portes de l'Afrique. On est reparti pour une bonne année.
Il va y avoir beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses avec Traversée africaine tout novembre.
On aura l'occasion d'en reparler.
On consacrera une émission à ça parce que voilà, il y aura beaucoup d'interventions dans plein de lieux
différents. Mais je trouve que toi, t'as trop parlé aujourd'hui.
Non, je pense pas.
Hein? D'accord, non.
On recommence.
Non,
mais c'est minorité là aujourd'hui.
Non, mais on est dans une société de paradoxes. Je me lance. Hein.
Mais non, il a trop parlé.
Attends, ici on dit en Occident qu'on est dans une société de l'écrit. Pourtant, on parle plus ici qu'au Mali, alors qu'au Mali, on est dans une société de l'oralité.
Bien.
Il y a quand même quelque chose.
Ben oui, c'est vrai. Je suis d'accord, mais elle parle trop. Quoi.
Vous pensez.
Bon, ben, on va.
Moi, je pense que.
On est dans le paradoxe.
Vous parlez trop tous. Allez, merci, Amadou Kansa, d'être passé. La porte est grande ouverte.
Ah
tu
oui,
reviens quand tu veux.
Je pense qu'il faut qu'Ama revienne nous.
Ah oui, oui, oui.
Refaire des choses avec nous.
Merci, Rémi.
Merci, Paul. Merci, Dominique.
Merci, Rémi. Merci, Aurélien.
Aurélien, à la technique. À la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.